Au début du siècle, en 1901, le Pepe Benoît venait juste d'avoir 20 ans. Il est donc appelé par la Marine nationale à aller faire son service militaire. Et on l'embarque sur une canonnière qui s'appelait la Décidée du port de Lorient et on lui demande de partir en Chine avec la canonnière. Vous allez me demander qu'est-ce qu'il allait foutre le Pepe au début du siècle en Chine. Je vous explique. Comme il expliquait lui-même, au début du siècle, les Chinois, qui depuis Marco Polo étaient colonisés par les puissances occidentales, au début du siècle, disait le Pepe, les Chinois, ils ont eu ras-le-bol de voir leur tasse, ils réfléchissaient, ils en vont changer, ras-la-tasse de voir leur bol, leurs assiettes, leurs beaux vases Ming, aboutir sur les tables bourgeoises de Londres et de Paris. Ils se sont soulevés, les Chinois, en une insurrection nationale appelée la révolte des boxeurs, que les puissances coloniales réprimèrent durement en dépêchant chacune un corps expéditionnaire dans celui de Montpepé, qui en priva ainsi ma mémé de son usage pendant tout le temps qu'a duré la campagne. Comme l'expliquait le Pepe, qui était très fort, puisque pendant son séjour en Chine, il avait mis au point une passoire qui passait le riz et qui retenait l'eau, appelé depuis un Chinois. Il y avait la guerre entre les blancs et les jaunes. Car comme disait le Pepe, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et il commençait toujours son récit de son service militaire de la même façon. Il commençait ainsi. Par une belle matinée bretonne, la canonnière l'a décidé, sur laquelle je me trouvais, avec 300 autres marins, quitta les rivages familiers du port de Lorient pour ce troublant, érotique et enchanteur de l'extrême-orient. Nuit de Chine, nuit câline, nuit. Nuit d'ivresse, de tendresse. Objectif, remonter le grand fleuve bleu que le Pepe appelait en breton le Yangtze-Kiang. But de la mission, récupérer un couple de missionnaires français. Oui, un couple, ils étaient deux. 2 degrés bâbord la barre. Vous voyez la canonnière remontant les eaux limpides du Yangtze-Kiang dans le silence céleste des eaux asiatiques, à peine déchirées par le crépitement du moteur et le chant des iris en fleurs. 1 degré tribord. Des berges verdoyantes, mais ô combien traîtresses, montaient les parfums mêlés du riz cantonais, du poulet chopsu, du canard laqué, du nongman. Si je m'en sors, disait le Pepe, j'ouvre un restaurant chinois pour les touristes à l'île de Groix. Prémonitoire. Ils avançaient doucement, surveillant les berges. Je suis sûr que d'ici, vous voyez la scène. Hein, non, je veux dire le Yangtze-Kiang, bien sûr. Dans les principaux événements ont été retracés dans un film célèbre, la canonnière du Yangtze avec Steve McQueen dans le rôle de Montpepe. Montpepe qui n'avait pas derrière lui une musique à la Ennio Morricone, mais seulement les claquements de dents de son copain Henri Monicom, qui avait tellement les foies qu'il riait beaucoup plus jaune qu'un Chinois. Paré à accoster, les défenses à bâbord, défenses à bâbord. Allez les missionnaires, embarquez, bon Dieu, c'est plus le moment de prier. Allez hop, saute dedans. L'arc devant, l'arc derrière, en avant toutes, en avant demi. Qu'est-ce qui se passe en bas? Gabier, tonnerre, Benoît, commandant, on est coincé, c'est la décrue du fleuve. On peut plus repartir, faut attendre une autre crue. Les carottes sont cuites, qui l'eût cru? Bah oui. Qui c'est qui va croire à une histoire comme ça? Et pourtant, disait le Pepe à ses clients derrière son comptoir, ça s'est passé comme ça. Alors il disait, dans son bistrot, « Qu'est-ce que tu veux que je foute, moi? Coincé pendant des mois sur le grand fleuve bleu en Chine. » Il disait, au bout d'un moment, pour tuer le temps, entre deux Chinois, j'ai taillé dans un morceau de bois la coque d'un cadmat barque de Nantes que j'ai glissé ensuite dans une bouteille en prévoyant des petits morceaux de fil pour redresser chaque mât, chaque gui, chaque voile, chaque vergue. Un vrai travail de doigté et de patience. Car tout marin vous dira que c'est beaucoup plus difficile de mettre un bateau dans une bouteille que... Dans ce sens-là, ça va à coup de casier, 12 par 12, t'as qu'à mettre, hein, allez, on voit. Achever ce travail, la mise en bouteille de 100 bateaux, ce que certains distingués chercheurs ethnologistes d'aujourd'hui appellent assez pompeusement, il faut le dire, une œuvre d'art maritime d'expression naïf et populaire. Mon pépé disait, c'est un bateau dans une bouteille, il est con, quoi, il voit pas. Comme il lui restait un petit peu de temps au pépé, de ses propres doigts, sur un morceau de satin noir, il broda lui-même, parce que vous savez qu'on ne peut pas être marin dans aucune marine du monde si on ne sait pas coudre. C'est indispensable de savoir coudre, parce qu'il faut ramonder les chaluts, c'est de la couture, il faut réparer les voiles, et surtout, disait le pépé, il faut savoir refixer à la sortie des ports les boutons de braguette. Parce qu'il y a un proverbe marin qui dit « qu'importe le vent ». Du moment qu'il y a un port devant, et qu'importe le port, du moment qu'il y a une bonne femme dedans. Et si en plus de ça, la bonne femme est dans un bistrot, t'as tout sous la main directement. Il broda donc « Souvenir de ma campagne de Chine, dans un ovale sans portrait en quartier maître chef, plus bas une photo de la canonnière la décidée, et tout autour des petites photos de chinoises. Vu qu'à cette époque-là, le pépé, il était seulement « que fiancé que ma mémé ». Et il insistait sur le « que fiancé que ma mémé » et qui disait lui-même un petit coup de skenuche avant le mariage, il n'y a rien d'autre qu'un rodage de soupape. C'est tellement important dans la vie des marins, le skenuche, qu'il y a deux choses qui sont fondamentales pour eux, c'est le pinuche et le skenuche. C'est clair, c'est net ça. Hein, sur les quais, à La Rochelle, à Saint-Malo, partout, il y avait quoi? Des bistrots et des maisons calfatées. Il avait fait son tableau, paf, et il revient à l'île de Groix en 1904, 3 ans de service militaire. Et il accroche son tableau sur un mur dans le fond du bistrot de chez la Mémé. Où vous parlez si le tableau faisait un tabac auprès des gens du pays, surtout auprès du gars Mathurin, complètement fasciné, subjugué, par l'étrange et mystérieuse poésie qui émanait du tableau, qu'il observait des heures durant, avant de soupirer en lui-même, « La Chine, ça doit être au moins 2 fois plus loin qu'un père. » Tout auréolé qu'il était le grand-père à cette époque-là, il était auréolé d'une gloire, à cause de son tableau, de sa bouteille, de ses souvenirs, et surtout à cause d'une herbe étrange, ramenée de là-bas par lui-même, dont il saupoudrait tous les soirs sa part de tarte. Et quand ma grand-mère lui demandait « qu'est-ce que c'est que ça ?», il répondait « qu'est-ce que tu veux que ça soit ? C'est de la tarte opium !»